Jeudi, le 4 d'avril, nous sommes à l'ombre de grands roches de météores, comme vous voyez. Vous pouvez voir quatre monastères. Nous sommes plus près au monastère de Sainte-Trinité, qui se trouve juste en face. Au-dessus de ces monastères, sur la roche, vous verrez un mur. Ils ont creusé la roche pour faire des marches pour monter jusqu'à là-haut. À droite, on va voir le monastère qui s'appelle Grand Météore. Voilà, à droite. Sur le point plus haut, sur la roche plus haute et plus large, Platylifos. Ça, c'est le Grand Météore. Et à droite de Grand Météore, vous voyez encore un autre, c'est le monastère Varlam.
Nous, on peut visiter un endroit qui est ouvert au public. Il y a aussi des endroits qui sont privés. Nous ne pouvons pas entrer. Venez. Je vous ai dit que dans tous les monastères, nous avons l'église principale. Ce n'est pas la seule, peut-être. Très souvent, il y a aussi d'autres petites chapelles. Mais ça, c'est l'église principale et on l'appelle Catholicon. Catholicon, c'est le nom pour l'église principale du monastère. Et tout autour, nous avons les autres bâtiments. Ici, avant l'entrée, vous pouvez voir à droite et à gauche les deux morceaux du bois. Ça, c'est le talandon. Dans le monastère, nous avons les cloches, mais ils les utilisent juste pour les grandes fêtes. Pendant tous les jours, pour appeler les moines ou les religieuses dans l'église pour la cérémonie du matin ou de l'après-midi, ils utilisent le talandon. Selon la tradition religieuse, Noé frappait deux morceaux du bois pour appeler les animaux. Et ils font la même chose, il y a un marteau et ils font un peu de musique comme ça. Quelquefois, ça c'est portable. C'est plus petit, ils peuvent le porter, ils font le tour de l'église. Et ça, c'est le simandron. Ça, c'est en fer pour appeler les religieuses dans le réfectoire pour le petit déjeuner et pour le repas. Il n'y a pas de dîner. Les dîners, c'est quelque chose de plus simple. Elles peuvent manger peut-être un peu du pain, de fromage, de fruits, un yaourt au miel, c'est tout. Mais pour le repas et pour le petit déjeuner, elles sont toutes ensemble dans le réfectoire. Le talandon et le simandron. Vous verrez qu'il y a de femmes qui sont plus âgées, mais il y a aussi des femmes qui sont jeunes. Il faut avoir plus de 21 ans, pas avant. Les Grecs ne payent pas de tickets parce que les Grecs, toujours, quand ils vont entrer, avant l'entrée ou quand ils entrent dans l'église, ils vont allumer une cierge. On va laisser quelques monnaies et les cierges ici sont naturelles. Nous ne trouvons pas souvent dans les églises ça. Ils sont des cierges qu'ils font les religieuses. Hein? C'est un peu rare. C'est une coutume pour les orthodoxes. Quand ils entrent dans l'église, ils vont prendre un cierge et ils vont l'allumer. Vous pouvez sentir. Hein? Dans la petite église, nous ne pouvons pas photographier, s'il vous plaît. C'est interdit. Et vous pouvez voir au-dessus de la porte principale, nous avons la date de la construction de cette église, 1798. C'est une église récente. Et la décoration que nous avons dedans, c'est encore plus récente. Ils travaillaient encore l'année dernière. par la taille de l'église, très souvent, on peut comprendre le nombre de moines qu'il y avait, qui vivaient dans ces monastères. Parce qu'au début, ici, il y avait des moines. Après, ils l'ont abandonné et c'est pour ça qu'ils ont porté les religieuses. Ils ne sont jamais les religieuses avec les moines. Le moine, ce n'est pas un prêtre. Dans un monastère où il y a des moines, il y a quelques moines entre eux qui sont aussi des prêtres. Ils peuvent célébrer la messe tous les jours. Mais dans un couvent où ils sont les religieuses, il n'y a pas un prêtre qui habite avec elles. Il y a un prêtre qui vient de Kalambak à 2-3 fois par semaine pour célébrer la messe. Elles font une cérémonie tous les jours, le matin, l'après-midi, le soir, mais il célèbre la messe, il prend la communion 2-3 fois par semaine. Ici, c'est le narthex, la petite salle où il n'y a pas beaucoup de fenêtres. Comme vous voyez, quelques petites fenêtres. La période ottomane, ils ont peur, les moines. Ils n'ont pas beaucoup de fenêtres et toute la construction, c'est comme une forteresse, comme vous avez vu. Ici, au narthex, comme d'habitude, avant l'entrée dans l'église, dans la salle principale, nous avons la même décoration. Ici, il manque parce qu'il n'y a pas assez d'espace et c'est pour ça qu'ils l'ont fait de l'autre côté, derrière moi. Regardez qu'est-ce que nous avons ici. Il y a une décoration, une belle décoration avec le jugement. En haut, c'est le Jésus dans une gloire verte. À gauche, c'est la Vierge. À droite de Christ, c'est Saint Jean. Et après, 6 et 6, les 12 apôtres. Le premier à gauche, derrière la Vierge, c'est Saint Pierre. Le premier à droite, c'est Saint Paul. Par les pieds de Christ commence un grand fleuve rouge qui arrive à la bouche d'un dragon. Au milieu, nous avons la balance et cette icône s'est séparée à deux morceaux. Nous avons deux différentes choses. À droite, vous voyez les personnes qui sont nues au sous-sol. Nous avons des monstres qui mangent des personnes. C'est une situation terrible. Et de l'autre côté, nous avons une ville qui est très sûre avec le mur, avec la Vierge, avec quelqu'un qui a la clé. Et il va ouvrir la porte, c'est Saint-Pierre. Et derrière lui, derrière Saint-Paul, Saint-Pierre, Saint-Paul, et après les autres apôtres et les saints. Ça, c'est au début de l'Église. C'est avant d'entrer dans la salle principale pour penser un petit peu qu'est-ce qu'on fait pendant cette vie et qu'est-ce qu'on attend après la mort. Vous pouvez choisir, ils disent. De l'autre côté, comme il n'y a pas assez d'espace, nous avons le Christ au milieu, la Vierge et Saint Jean. Et là, vous pouvez voir encore les lettres qu'il utilise pour le... On a dit que pour le Christ, il utilise seulement 4 lettres. Iisus Christos. Pour la Vierge aussi, à gauche, derrière la Vierge, là, vous voyez un M et P. C'est la première lettre de mon mitir. Et la dernière lettre P, c'est R en grec. Mitir signifie mère. Et après, il y a un phyta, c'est un O avec une petite ligne au milieu. Et où? Theou, Theos, c'est les dieux. Théologie, Theologia, par le mot Theos. La mère des dieux, mitir Theou. Il y a aussi une décoration à droite et à gauche avec les selles. On fait des efforts pour monter tous les jours, mais ce n'est pas toujours facile, comme vous voyez. Le narthex s'est décoré très souvent avec le martyr, de différents martyrs. Vous avez vu les bougies, les cierges en haut. Vous m'avez demandé s'il y a de l'électricité. Oui, le fresque là au fond, c'est illuminé. Mais pendant la cérémonie, ils n'utilisent pas l'électricité. Ils allument seulement les bougies, les cierges. Vous pouvez imaginer, à 4 heures le matin, il n'y a pas beaucoup de lumière. Elles sont toutes ensemble dans l'église principale. Elles chantent pendant 3 heures, ils font la cérémonie Et après, elle commence, après le petit déjeuner, elle commence à travailler. Pour ces monastères, peut-être vous avez vu dehors, il y a des horaires un peu différents. Il s'est ouvert à 9h jusqu'à 1h30 à peu près. Et après, c'est fermé pour le repas et la sieste. Et elle continue l'après-midi, 15h, 15h30, jusqu'à 17h30. Parce qu'à 18h, il commence la cérémonie de l'après-midi. En regardant en haut, nous avons la forme de la croix et la petite coupole. Comme d'habitude, on trouve le même style de l'iconographie, le même programme, pas style, le même programme de l'iconographie, c'est-à-dire sur le point plus haut de la coupole, c'est toujours le Pandocrator. C'est celui qui domine, qui peut voir tous. On descend un peu plus bas et nous avons toute la présentation de la vie de Jésus. Pourquoi toute cette fresque? Pourquoi toute cette présentation? Parce que cette époque-là, il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas lire. Alors, ils peuvent lire les icônes, ils peuvent lire toutes ces images là-haut. Et avant la sortie aussi, nous avons les fondateurs de monastères de Météores. Le premier qui a fondé le grand Météores était Saint Athanase, ici, avec Saint Ioasaph. Ioasaph était le fils d'un roi serbe. Il a quitté sa vie là et il est venu ici pour vivre comme moine. Et avec Saint Athanase, ils ont créé le premier monastère qui porte, comme vous voyez, le grand Météores. Après les fondateurs du monastère Varlaam, il était deux frères, Oaios Theophanis et Oaios Nectarios, deux frères de Ioannina, une ville à 100 km d'ici. Et après, vous voyez Saint Philotheos et Saint Antonios, Antoine, de l'autre côté, qui gardent, sont les fondateurs de ces monastères de Saint-Stéphane. Vers l'est, l'iconostase. On a vu jusqu'à maintenant l'iconostase qui était en marbre, en pierre. Ça, c'est en bois. Nous sommes sur les montagnes. Il y a beaucoup de forêts. Il y a du bois et ils l'utilisent. Hein? C'est comme une dentelle. Avec beaucoup de détails, nous avons des fleurs, nous avons les saints, les oiseaux, des animaux. Ici, sur les portes, Saint-Georges, les dragons en bas, et Saint-Dimitrios de l'autre côté. On a dit que derrière l'iconostase ne peuvent pas entrer les femmes. Mais ici, il n'y a que des femmes. Alors, quelquefois, elles peuvent entrer pour faire le ménage, pour aider aussi le prêtre pendant la cérémonie. Cette église s'est consacrée à Agios Haralabos. C'est un saint orthodoxe, je ne peux pas traduire ces mots, ces noms. Et ici, il garde relique de Saint Haralabos. C'est un pèlerinage pour les Grecs. Vous voyez la boîte et au milieu, vous pouvez voir un petit peu ce morceau blanc. C'est un morceau du crâne. Et vous avez vu l'œuf ici en haut, au milieu? Vous savez qu'est-ce que c'est ça? Ils le mettent là, quelquefois il y a encore plus. Ce n'est pas seulement décoratif, c'est pour ne pas faire les araignes leur nid. Elles glissent, je ne sais pas, elles ne peuvent pas faire leur nid. Vous attendez les hymnes qu'on écoute dans l'église orthodoxe pendant la cérémonie.
C'est comme chez nous les moines, hein, c'est du grégorien. D'accord.
Mais dans l'église catholique, il y a de différents ordres de moines, n'est-ce pas? Ça n'existe pas dans l'église orthodoxe. Tous les moines et les religieux sont de même ordre. Alors, ici nous avons la vieille cuisine du monastère que, avant quelques années, ils l'ont transformée en un petit musée. Et il expose des objets, des vieux objets qu'il avait dans ces monastères ou qu'ils ont pris de monastères qui n'existent pas. On a dit qu'il y avait 23 monastères avant et maintenant ils sont seulement 6. Et les autres, il était disparu, il était détruit. Alors, les objets de ces monastères, ils les ont ramassés dans le monastère qui existe encore. Ça, c'est seulement un petit exemple. C'est vrai qu'ils ont peur d'exposer tous les trésors qu'ils ont dans les monastères. C'est ouvert au public à seulement ça. Vous voyez que nous avons un autre épitaphius. Vous vous rappelez, on a parlé de ça. Ça, c'est du 1857, 19e siècle. Derrière vous, les objets qu'on trouve sur l'autel, les calices, les cuillères, vous voyez là, hein, les petits couteaux pour couper le pain qu'il utilise pour la messe. Devant nous, ici au milieu, nous avons quelques les évangiles qui sont décorés avec l'argent. Vous avez vu aussi dans l'atelier qu'il y avait des icônes décorées avec un feuille d'argent. Il n'y a pas d'argent dans cette région, mais à Ioannina, 100 km d'ici, il y a une grande tradition, il y a des personnes qui apprennent, ils travaillent l'argent. Pendant la période byzantine, beaucoup des riches familles de cette époque-là, ils achetaient des objets en argent pour les offrir dans le monastère ou dans les églises. Aujourd'hui, c'est à la mode, les dernières années en Grèce, d'offrir une icône pour le mariage d'un couple ou pour le baptême d'un bébé, avec le saint qui a le même nom de bébé. Et on préfère les icônes qu'ils sont décorées avec l'argent parce qu'elles sont un peu plus chères. Derrière moi, vous voyez tous ces vêtements. Est-ce que vous avez vu un prêtre orthodoxe?
Oui, à
ici aussi, pendant le voyage, je crois qu'on va voir qu'ils sont en noir, avec une robe noire, mais pendant la cérémonie, comme dans votre église, ils portent des vêtements plus décorés, comme vous voyez ici. Si vous regardez en haut, vous comprenez qu'il y avait les cheminées qui l'ont fermée, c'était la cuisine. Il faut imaginer que tout ça était noir avant de le nettoyer. Ici, nous avons une petite collection des icônes. Vous pouvez voir la première ici à droite. C'est une icône avec Saint Stéphane à gauche, comme un homme assez jeune. Et à droite, c'est Agios Haralambos, à qui est consacrée la nouvelle église. La vieille église était consacrée à Saint Stéphane, la nouvelle à Agios Haralambos. Tous les deux alors avec l'église, avec ses monastères. D'autres icônes de Jésus, de la Vierge, comme vous voyez. Dans la petite vitrine, derrière Père Pierre, nous avons une icône du XVIIe siècle. Hein. Ça, c'est le peintre, l'agiographe qui l'a fait. Il a fait des études en Crète, dans l'école des agiographes en Crète. On peut comprendre ça par les couleurs sont un peu plus obscures. Nous avons le moment où il prend le corps de Christ par la croix, vous voyez derrière lui la croix, pour le mettre dans le tombeau. C'est très particulier. Au milieu, ouais, ouais. Et vous voyez les quatre lettres en haut, I, N, B et I, on l'a expliqué. Au milieu ici, nous avons quelques livres. C'est pas facile de lire. La première chose, sont en grec ancien. Et aussi, sont des lettres assez artistiques, assez difficiles. Ils sont des livres qu'il utilisait dans l'église pour lire ou pour chanter pendant la cérémonie. Dans le monastère de Mont Athos, il y a un grand trésor de livres qui étaient plus anciens. 25 000 livres de cette époque-là. Ils les gardent, il y a de grandes bibliothèques et ils font aussi beaucoup de recherches. Et de l'autre côté, nous avons une collection de croix qui posent sur les autels, de croix qui ne sont pas très grands, ils peuvent le transporter, de croix qu'il utilise aussi très souvent pour l'épiphanie. Dans les églises orthodoxes, tous les hymnes, toute la cérémonie, c'est en grec pas exactement ancien, la langue qu'il utilisait pendant la période byzantine. C'est assez difficile pour les Grecs. Si vous restez pendant 3 heures dans nos églises, vous verrez qu'ils font exactement la même chose que vous faites dans l'église catholique dans 1 heure.
Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle le Père Bouze? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont allés à Sylvanès? Bon, à l'abbaye de Sylvanès, Père Gouze avait repris un certain nombre de mélodies orientales, mélodies orthodoxes, qu'il a reprises, qu'il a traduites, et on retrouve, moi je m'est allé plusieurs fois de participer au Triduum Pascal à Sylvanès, et c'est extraordinaire. Et là, on voit comment, en reprenant toutes ces mélodies, toutes ces hymnes, c'est des hymnes extrêmement anciennes. Voilà, en les reprenant et en les chantant avec un certain rythme, on s'aperçoit que c'est magnifique. C'est magnifique. C'est nous qui nous sommes un peu appauvris, quelque part. Notre liturgie s'est appauvrie. Et c'est très, très beau. Après, je l'ai entendu aussi chanter du grégorien, avec un rythme autre que celui que nous avons, nous, et je peux vous assurer que c'est fabuleux, quoi. Là, on a beaucoup à recevoir de l'Église d'Orient, de la liturgie orientale.
Construit 16e siècle. Derrière la première roche, on peut voir juste un petit peu quelques constructions de grandes météores. Et à gauche, là-bas, vous voyez le dernier, là au fond, c'est le monastère de Saint-Nicolas, vous voyez, où j'ai dit qu'il y a seulement un moine, là-bas. Et vous voyez aussi la roche qui est toute seule là-bas. Sur la côté à droite, il y a ça qui reste d'un tour et aussi un peu de mur. Là, il y avait un autre monastère qui n'existe plus. Et avant le monastère de Saint-Nicolas, nous allons un peu à droite, là-bas, sur une autre roche, nous avons les ruines, un mur en pierre. Là aussi, il y avait un monastère. Alors, vous voyez qu'il y a deux monastères, il y avait deux monastères qu'il n'y a plus. La première construction ici était le 14e siècle, le grand météore. 15e, 16e, le monastère qu'on visite. Ils ont construit un bâtiment à 4 étages. Au premier étage, en bas, c'est le réfectoire. Deuxième étage, les chambres pour les femmes qui vivent ici. Troisième étage, l'église principale. Et ça, c'est le quatrième étage, l'entrée pour les visiteurs. Vous voyez encore une fois le simandron et le talandon. Hein, on trouve toujours dans les monastères orthodoxes la même chose. Et nous, on peut descendre jusqu'au troisième étage, pas plus bas. Une dame m'a demandé pour le monastère de Saint-Stéphane si les fresques, de quelle date sont les fresques qu'on a vues, sont des fresques récentes. Ici, nous avons des fresques du XVIe siècle. Je crois que vous comprenez mieux hein, qu'elles sont des fresques qu'ils ont faites pas les dernières années. Pendant les dernières années, ils ont nettoyé les murs. Vous devez imaginer que tous ces murs étaient noirs jusqu'à avant 40 ans à peu près. Et ils ont travaillé, les archéologues, pour nettoyer. Ils n'ont pas ajouté des couleurs. C'est ça qu'ils ont trouvé, mais ils l'ont nettoyé. Nous avons encore d'autres personnes, mais c'est intéressant, vers cette direction là-haut, que nous avons une présentation de toute la nature. Les oiseaux, les animaux, les fleuves, les montagnes, les étoiles en haut, hein, c'est la création du monde. Il manque l'homme. Ici, il n'y a pas de marbre, c'est difficile de trouver et de transporter le marbre. C'est pour ça que les hagiographes, ils décorent le mur jusqu'au pavement. Vous voyez ici, au-dessus des icônes, ou dans le narthex aussi, tout autour, en bas, vous voyez qu'ils ont fait des peintures qui donnent l'impression d'une plaque de marbre, entre guillemets. Ou ici, les deux colonnes dans l'église, elles donnent l'impression du marbre avec les chapiteaux corinthiens, mais c'est juste une peinture. Quelquefois, nous ne pouvons pas voir très bien les fresques. Vous comprenez qu'après tous ces siècles, avec l'humidité, une période était un peu abandonné, alors c'est normal que nous avons ce problème. Vous voyez les fenêtres dans les églises chrétiennes, on a besoin de la lumière naturelle, et c'est pour ça qu'il y a des fenêtres, mais comme je vous ai dit, ils sont petits. Et il y a aussi des fenêtres dans l'abside. Hein? Le prêtre, pendant la préparation de la communion, là, il a besoin de lumière naturelle. C'est seulement ça pour le patriarche. Les autres, ou pour l'évêque, encore une autre, vous avez vu, dans les églises en Russie, il n'y a pas de chaise pour les fidèles. Vous savez ça? Si vous visitez. Mais ici, dans les églises orthodoxes, nous avons des chaises. Nous avons aussi dans le monastère ces types de chaises. Les plus âgés qui ne peuvent pas rester au bout pendant 3 heures, ils peuvent se soutenir ici ou ils peuvent s'asseoir. C'est interdit de monter sur les roches où il y a de monastères. Mais là-haut, à droite, il y a 4, 5. À gauche, sur la grande roche. Et là, on va voir aussi une grotte, un trou dans la roche, où il y a quelques constructions en bois dedans, où il vivait quelques moines. Comme les aigles, il y a des touristes qui arrivent au météore juste pour cette raison et pas pour visiter les monastères. Pour faire du trekking dans la roche, c'est la petite chapelle de Saint-Georges. Ils ont accroché beaucoup de foulards là, de différentes couleurs. En descendant, on va le voir encore mieux. Selon la tradition, pendant la période ottomane, une femme qui habitait ici, mais elle était musulmane, elle a fait une prière à Saint-Georges pour son mari qui était malade. Et il a offert à Saint-Georges le foulard qui portent les musulmans. Et c'est pour ça qu'encore les orthodoxes, il n'y a plus de musulmans ici, pendant la fête de Saint-Georges, le 23 d'avril, il offre quelques foulards là-haut. La question c'est comment ils peuvent monter là-haut. Regardez à gauche, hein,
ah oui.
Où il y a aussi des drapeaux grecs. Je ne suis jamais arrivée jusque-là. Le village ici, le premier village en descendant de Météor, on l'appelle Castraki. Castro, c'est la forteresse. Castraki, la petite forteresse. Et tout ça au four. C'est très délicieux. Le moussaka, c'est un plat traditionnel. Je crois que nous aurons l'occasion pendant ce voyage de goûter un moussaka pendant le repas. Parce que, comme dit Ney, c'est un peu lourd pour l'estomac. Mais pour le repas, on peut prendre un moussaka. Ils font le moussaka avec les aubergines. Il faut être frites, avec les pommes de terre frites, de la viande et béchamel. Ça, c'est le plat traditionnel en Grèce en été, quand il y a d'aubergines. Parce qu'en hiver, nous avons une soupe d'haricots avec une sauce de tomate. Quand il fait froid, c'est ça qu'il faut. Alors, le premier, c'est papoutsaki aujourd'hui. Après, il y a de boulettes de la viande avec un sauce de tomate, du riz, de salade. Et après, à la fin, je crois qu'il y a un crème caramélée. D'habitude près de la mer, et peut-être encore un autre appartement pour la fille, comme pour doter la fille de la famille, et peut-être encore un autre appartement pour le louer, pour prendre plus d'argent. Et ils payaient les impôts, mais juste au début. Après, il n'y avait pas d'autres impôts pour notre patrimoine. Maintenant, après la crise, les derniers 6-7 ans, nous sommes obligés de payer chaque année les impôts en plus pour notre patrimoine. C'est quelque chose que vous payez en France depuis longtemps, mais en Grèce, ça n'existe pas. Il est arrivé avec la crise. Alors, quand ils avaient d'argent, ils ont commencé la construction d'une maison. Après, ils l'ont abandonnée. C'est peut-être la maison pour la fille de la famille, qui a 10 ans, alors il va l'utiliser, cette maison, après 20 ans peut-être. Et c'est pour ça que c'est abandonné. Oui, il n'y a plus d'argent pour continuer la construction. Et vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de bâtiments dehors les villes ou les villages. Si on veut construire à la campagne, il faut avoir un terrain qui sera minimum 4000 mètres carrés pour faire une construction maximum 250 mètres carrés. C'est beaucoup plus cher alors de construire dehors le village. Les Grecs, à cause de la crise économique, ils ont encore près de la famille, près de l'église. C'est la tradition ici que les parents aident beaucoup les enfants. Les enfants restent avec les parents jusqu'au moment de leur mariage, comme d'habitude, et maintenant avec la crise encore plus. Et après, quand nous avons la famille et des enfants, ce sont les parents qui nous aident, qu'ils vont garder les enfants, qu'ils peuvent les garder pour aller de le matin à l'école, quand ils rentrent de l'école. C'est la grand-mère qui va cuisiner pour toute la famille. Ils nous aident beaucoup. Et les enfants aident les parents aussi. Quand les parents sont plus âgés, quand il y a des problèmes de santé, ils restent avec nous, chez nous, jusqu'à la fin de la vie. Un autre élément qui nous aide beaucoup, c'est le climat. C'est ce soleil qu'il y a très souvent en Grèce. On a dit que les personnes qui travaillent au bureau, aux banques, etc., ils travaillent jusqu'à 14h30, au maximum 14h, à 15h, 15h. L'après-midi, ils sont libres. Alors, ils peuvent rester à la maison, ils peuvent être avec la famille, ils peuvent sortir pour prendre un café avec des amis. On fait ça très souvent, pas seulement le week-end. L'école, on commence l'école quand nous avons 6 ans. Il faut 6 ans à l'école primaire, après 3 ans au gymnase, comme on dit, et après 3 ans pour le lycée. Le lycée classique ou le lycée technique. À la fin du lycée, à la fin de la dernière classe du lycée, si on veut, on peut passer les examens, on peut participer aux examens, et si on va passer ces examens qui sont assez difficiles, on peut continuer à l'université. En Grèce, l'éducation, c'est gratuite. L'université aussi. Il ne faut rien payer pour l'université. Il faut payer peut-être pour un appartement, pour le transport, pour la nourriture de notre étudiant, mais il ne faut rien payer pour l'université. 4, 5, 6 ans à l'université, et après commencent les problèmes quand on cherche un travail. Malheureusement, les dernières années, si on va trouver un travail, les jeunes peuvent prendre 600 euros par mois, ou beaucoup de jeunes préfèrent de quitter la ville, le pays, pour vivre dans un autre pays, pour continuer les études quelquefois, et après ils restent là. D'autres pays européens, mais aussi en Australie, il y avait une grande vague des jeunes les dernières années vers l'Australie. Presque dans tous les villages de la Grèce, il y a une école primaire. Pour le gymnase et les lycées, il faut aller dans le plus grand village ou la ville qui n'est pas très loin, à une distance de maximum 30 km. On commence la période scolaire le 11 du septembre jusqu'au 15 de juin. En été, ils ont des vacances. Les écoles sont ouvertes lundi jusqu'à vendredi, le matin. Le week-end, ils sont libres. Et cette année, nous avons un autre système pour les écoles primaires. Ils laissent les sacs dans l'école 2 fois par mois, les week-ends, pour être plus libres les élèves et pour faire aussi d'autres choses avec les parents. Ça, il y a en France. Vous savez, il y a ce programme, ce système. Pour nous, c'est nouveau. Quand moi, j'étais à l'école, la première langue étrangère était le français. Maintenant, c'est l'anglais. Ils commencent à apprendre l'anglais pendant la première classe du lycée, de l'école primaire. À l'école primaire, pendant la première année, ils font 1 heure par semaine anglais. Et ils commencent avec 2 livres la troisième classe. Et à la fin de l'école primaire, les dernières 2 classes, ils commencent aussi une deuxième langue. Ils peuvent choisir ou français ou allemand.